Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Accueillons notre première auditrice et c'est Anne. Bonsoir Anne.
Bonsoir Sana.
Bienvenue.
Excusez-moi ma voix parce que j'ai...
Vous avez...
Je suis enrhumée puis j'ai une voix grave.
Bon, il n'y a pas à s'excuser, alors tout va bien. Et bon rétablissement si vous êtes malade.
Non, juste un peu enrhumée.
Un petit peu enrhumée, bon. Bienvenue à la Libre Antenne, Anne.
Ouais, je suis un peu stressée aussi, c'est pas... J'ai tout à la fois.
Bon, c'est normal. Anne, je suis très contente de vous avoir en direct, parce que, on va le dire aux auditeurs, hein, on s'envoie des petits mots de temps en temps.
Oui.
Voilà, sur un réseau, voilà. Donc, quand on m'écrit, je réponds. Et quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez m'appeler, j'étais vraiment très, très heureuse. Merci infiniment d'avoir le courage de nous partager votre histoire. Donc, je suis très touchée.
Ouais, je voulais vous remercier d'ailleurs pour le doux message que vous avez envoyé l'autre jour. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Mais c'est normal.
Je ne sais pas trop par où commencer.
Parce que vous voulez...
Je voulais vous parler des rêves et des cauchemars que vous vivez ma vie en ce moment.
Qu'est-ce qui vous
arrive ? Je vais d'abord vous parler des raisons de ces cauchemars.
D'accord.
Vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce que des fois je parle.
D'accord. Forcément, je vous poserai des questions. Donc, ok, très bien.
D'accord. Donc, quand j'étais petite, j'ai subi des attouchements de mon père, que j'adorais, qui m'avait expliqué que les gentils papas, ils donnaient des caresses, et que les méchants papas, ils donnaient des fessées. Donc, moi, je prenais ça. J'avais, je sais pas, je pense 3-4 ans.
Vous aviez 3-4 ans quand... D'accord.
Oui, quand ça a commencé. Le psy que j'ai vu, parce que j'ai fait un déni par rapport à ça, le psy que j'ai vu à ce moment, pas à ce moment-là, à 38 ans, quand tout est revenu, m'a dit qu'il pensait que ça avait commencé beaucoup plus tôt.
D'accord.
Quand j'étais nourrisson. Et ça, je ne me souviens pas du tout.
Et puis, vous n'aurez probablement jamais la réponse.
Non.
Oui.
Et mon père est mort d'une tumeur au cerveau quand j'avais 13 ans. Et je l'adorais toujours. Donc, j'ai même fait une tentative de suicide à ce moment-là. En reprochant à ma mère d'être en vie alors que mon père était mort. Bon, j'étais...
Ah oui.
Bon,
je note tout ça parce que forcément j'aurai des questions à vous poser après. Donc vous subissez des attouchements dès l'âge de 3-4 ans, en tout cas c'est ce qui semble...
Les souvenirs remontent,
voilà, les souvenirs remontent petit à petit. Ça a duré jusqu'à l'âge de 13 ans ?
De 12 ans. À 12 ans j'ai été opéré d'une jambe et donc il ne pouvait plus y avoir de... Quand il est décédé, j'étais allongé, je n'ai pas pu assister à son enterrement, ni voilà. Bon.
Votre mère était au courant ?
Je pense. Au moment de sa mort, en 2007, alors que je n'attendais plus rien, je me suis occupé d'elle beaucoup. Et elle m'a dit qu'en fin de compte, ça lui était revenu et qu'elle m'a présenté ses excuses.
Oui.
Que j'ai accepté.
D'accord. Vous êtes la seule dans la famille, Anne ?
Non, on est deux.
Vous êtes deux ?
Mais d'après ma sœur, il ne s'est rien passé avec elle.
C'est l'aînée ou êtes-vous l'aînée ?
Non, je suis la seconde.
D'accord.
Quoi, la troisième, parce qu'il y a eu un enfant décédé avant ma sœur.
Donc ces attouchements ont duré jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque vous avez été après opéré d'une jambe. À quel moment, Anne, vous avez compris que ce que vous faisiez, votre père, n'était pas normal ?
Je crois que j'ai toujours su, parce que j'étais terrorisée petite quand j'étais malade, bon, qu'on appelait un médecin, je pensais que ça pouvait se voir. Et il y a eu aussi des dessins à l'école où je dessinais, des enfants avec une maman. Et la maîtresse m'avait demandé pourquoi il n'y a pas le papa. Je lui ai dit, le papa, il n'existe pas. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Il y a une maîtresse qui avait convoqué mes parents pensant que j'étais battue.
Ah oui.
Alors que j'étais pas... Quand ma mère avait la main leste comme...
Oui.
Comme disait mon père, mais bon, j'étais pas battu, mais j'étais pas une enfant battue.
Est-ce que, Anne, vous aviez souvenir, justement, à l'école, que ce soit les maîtresses ou autres personnes de l'enseignement, est-ce que vous aviez souvenir éventuellement d'une personne qui vous ait posé la question directement s'il se passait autre
une
chose?
Une maîtresse, oui.
Oui.
Elle m'a demandé... Parce que le samedi matin, ma mère partait au marché et mon père était à la maison. Et un samedi matin, je suis allé à l'école et j'ai dit que je ne voulais pas rentrer chez moi. Donc, je lui ai dit que c'était parce qu'il y avait mon papa qui était seul et que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et c'est elle qui a pensé que mon père me battait.
D'accord.
Parce que je ne suis pas allé plus loin.
Est-ce que vous aviez le sentiment d'être différente à l'école?
Non, j'étais très, très gaie, très joyeuse, j'avais beaucoup d'amis.
Ouais.
J'étais le bouton de train, j'étais.
Et est-ce que vous en parliez
autour? Non.
Non, c'est, vous aviez conscience que c'était quelque chose de tabou ou parce que votre père vous rappelait qu'il fallait surtout garder le secret?
Mon père me disait que quand je... Ça, c'est toute petite. Hein.
Ouais.
Parce qu'après, j'ai su que c'était pas vrai, quand même. Il me disait que... de me dépêcher de grandir et que... quand je serai grande, il m'épouserait et qu'on partirait.
Ah oui. D'accord.
Voilà. Et mon père n'a touché personne d'autre.
Que vous.
Je sais que j'ai l'air de le défendre parce que je sais plus.
Mais...
Parce qu'il avait une tumeur au cerveau.
Oui.
Il pense que la tumeur, il a eu pendant 30 ans. Ils ont fait une enquête dessus, sur cette tumeur qu'il a gardée tellement de temps. Et je pense que ça a déréglé quelque chose. Tu y trouves toujours des excuses.
Oui, c'est ce que j'entends. Est-ce que vous l'avez haï? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre
existence?
Jamais.
J'y suis jamais arrivé, non.
Mais vous lui avez pardonné?
Oui. Alors qu'il a bousillé ma vie. Parce qu'à cause de lui, je n'ai pas eu d'enfant. Pardon. Parce qu'à cause de lui, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu des gros problèmes à l'adolescence quand je rencontrais un garçon. Et...
C'était compliqué pour vous, l'intimité?
C'était compliqué, oui. Ouais. Surtout que je rencontrais que des personnes très douces. J'ai eu de l'achancement au niveau de mes relations.
Oui.
Et je me demande si j'avais rencontré quelqu'un de brutal. C'est-à-dire la douceur me faisait penser à mon père. Ça paraît bizarre, je sais. Il y a beaucoup de gens qui vont être choqués par ce que je dis, mais je ne sais pas. Mon père, il m'endormait sous ses caresses. C'est...
Donc il y avait de la
ça
peur.
Ça paraît pas normal, tout ça.
Non, mais c'est ce que vous avez vécu. Et puis là, vous le racontez avec également le souvenir de l'enfant que vous avez
oui.
été et puis de l'adolescente ensuite qui a grandi. Donc ce sont vos mots à vous, c'est votre histoire. Donc tout se faisait toujours dans ce que vous appelez, vous, cette douceur.
Oui.
Jamais forcée.
C'est-à-dire, ma mère ne nous aimait pas. Ouais, elle n'était pas faite pour être mère, sans doute. Une femme formidable, mais elle n'aimait pas ses enfants. Elle trouvait toujours les enfants des autres mieux.
Mais
tout le monde était mieux que nous.
Anne, elle vous l'a dit.
Quand quelqu'un nous disait, lui disait, vous avez deux jolies petites filles.
Oui.
Elle disait, c'est pas la peine, on a des glaces à la maison. Donc, des miroirs à la maison. Donc, voilà, on a toujours entendu ça.
Est-ce que votre maman était douce avec vous?
Non, pas du tout.
Non.
Elle aussi avait des excuses, elle a vécu des choses très dures.
Est-ce que votre sœur se doutait de quelque chose?
Elle a toujours dit que ce n'était pas vrai, ma sœur.
Ah, d'accord. Donc, à ce jour, elle réfute totalement. Oui, elle rejette l'idée. La réalité, elle la rejette?
Oui, totalement.
Ouais.
Le psychiatre m'avait aidé à lui faire une lettre pour lui expliquer et elle n'a jamais répondu. Là, j'ai perdu mon mari, ça va faire 3 ans en décembre.
Ah, je suis désolée.
Et je lui avais envoyé un SMS parce qu'elle ne répondait pas au téléphone.
Oui. Et elle n'a pas répondu.
Et je lui ai demandé, j'ai envoyé un autre SMS en lui disant, mais tu as changé de numéro, je sais bien, j'ai mis son nom. Et elle m'a envoyé, oui, mais je n'ai rien à faire, qu'il soit mort. Voilà, l'indifférence.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Je ne sais pas, ça m'a fait rire.
Ah oui, d'accord.
Je m'y attendais tellement, je savais tellement. J'ai tellement cherché son amour, on avait 4 ans de différence. Et j'ai tellement... Je pense que ça aurait dénoué les choses si elle avait été plus proche de moi.
Ça aurait dénoué quoi?
J'aurais pu lui dire à elle, je l'adorais, ma soeur.
Ah oui.
Elle me rejetait, mais moi, je l'adorais. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que en 92, donc j'avais 38 ans, parce que j'ai 68 ans, il y a eu un drame dans la famille. Il y a mon cousin qui a tué ses 3 enfants et qui s'est suicidé après. Donc ma mère était très proche de ces petits-là. Elle allait souvent au Pays Basque les voir et tout ça, et elle s'est effondrée. Et moi, j'ai soutenu tout le monde et je l'ai accompagné à l'enterrement. J'ai été là pour ma cousine. Et à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Bon, j'essayais d'aider tout le monde et puis j'étais un peu perdu. Mmh. Et il y a quelqu'un parce qu'il y avait énormément de monde, c'était un drame parce que les enfants avaient 1 an, 4 ans et 7 ans et demi. Donc, j'ai entendu dans l'assistance, je ne sais pas si c'est qui a dit ça, ton père qui met ses enfants et puis faire ça. Et je suis resté avec cette phrase, je suis retourné chez moi, j'ai laissé ma mère là-bas. Je suis retourné chez moi avec cette phrase sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Ah oui.
Je ne pouvais pas me débarrasser de cette phrase. Et c'est pour ça que je suis allé voir un psychiatre, à cause de cette phrase.
Ah, ça a été le déclencheur, d'accord.
Oui. Donc j'avais 38 ans.
Et vous
et
sentiez...
jusqu'à 38 ans,
oui.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie. En fait, pendant 38 ans,
oui.
Vous saviez que... Voilà, vous aviez vécu quelque chose, mais il y avait cette espèce d'amnésie traumatique qui faisait que vous n'arriviez pas à mettre...
Non.
À verbaliser ce que vous aviez.
Moi, je croyais que j'étais anormal, quoi, au niveau sexuel.
Ah, c'était uniquement sur le plan sexuel.
J'avais envie, et dès qu'on me touchait, je...
Ouais, c'était compliqué.
C'était compliqué.
Est-ce que...
Donc, j'ai vécu 7 ans. Excusez-moi.
Non, je vous en prie, Anne. Les enfants qui subissent des traumatismes développent, une fois adultes, beaucoup de problèmes psychosomatiques. Donc on est très souvent malade, comme si en fait notre système immunitaire avait été également fragilisé. Est-ce
oui.
que jusqu'à l'âge de 38 ans, vous faisiez donc des maladies chroniques ou est-ce que vous-même vous aviez développé de l'asthme ou une maladie qui pouvait être en lien?
Non.
Non.
Après, mais pas... jusqu'à l'âge de 38 ans.
D'accord.
Et beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vécu 7 ans avec une personne. Et je suis parti, je l'ai laissé alors que je l'aimais encore. Parce que, voilà, je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant, donc je ne voulais pas lui gâcher sa vie.
Oui. Et c'était vraiment irréversible, votre problème
Oui, j'ai jamais été capable d'aller voir un gynécologue. Tout ça, mais non.
Vous n'êtes jamais allé voir un gynécologue à ce jour?
Non.
D'accord.
Alors, pour en revenir au rêve.
Bien sûr, oui.
En ce moment-là, bon, depuis très jeune, je fais des rêves. Bon, et au moment où j'étais en analyse, en thérapie,
ah oui.
Ça a duré 12 ans. Le psychiatre parlait de rêve-réalité, c'est-à-dire je rêvais que j'étais allé chercher le courrier. C'était des trucs sans importance. Donc après, je croyais l'avoir fait, donc je n'allais pas voir le courrier. C'était que des
un côté dissociatif.
Voilà, oui.
Ouais.
Et pour ma cousine, là, dont le mari a tué ses enfants.
Dramatique, oui.
Oui, c'était dramatique. Pendant 3 ans, tous les ans, elle passait voir ma mère.
Oui.
Parce qu'elle elle habitait au Pays Basque et elle allait à Sète. Et ma mère était sur le chemin à Toulouse. Donc elle s'arrêtait avec son père, le frère de ma mère, que ma mère adorait.
Mmh.
Et son mari, ce mari-là. Et ses 3 enfants. Et là, pendant 3 ans où j'habitais pas loin, les 3 étés, j'ai totalement refusé d'y aller.
Ah oui.
Et je ne savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi d'y aller. Et la première des choses qu'elle m'a dit quand je suis allée avec ma mère à l'enterrement, elle m'a dit « Pourquoi tu as toujours refusé de voir mes enfants ?» Et ça, je ne sais pas non plus. Et ça fait partie de tous ces trucs bizarres qui se passent dans ma tête. Et que je ne sais pas...
Alors pour le moment, Anne, vous continuez à être accompagnée par un psychiatre?
Non.
Non. Est-ce que vous
En 2000, je suis restée en thérapie avec des hospitalisations volontaires. Un accord et mon psy, il y en a eu 3.
Oui, 3, d'accord.
C'était pour partir de chez ma mère aussi, il disait. Que je n'ai plus cette influence, parce que ma mère ne nous a pas aimés, mais moi je l'ai aidée jusqu'au bout.
Oui, 2007, hein, vous nous avez dit qu'elle est décédée.
Oui. Elle est décédée en 2007 et en 2004, je suis partie. Elle habitait en bas d'une maison, moi en haut, et je m'occupais d'elle. Et en 2004, j'ai rencontré Frédéric, j'arrive pas à dire mon mari. Et on est parti en Alsace. Et j'ai tout organisé autour de ma mère pour qu'elle ait des aides et tout ça. Et on descendait 3 fois par an, la voir. Et là, en ce moment, il y a 2 trucs. En ce moment, je fais des cauchemars où je revis toutes les phrases de mon père, tous les gestes de mon père. Et le 25, je dois être opéré de l'œil, une cataracte. Bon. Et ils veulent me faire, parce que j'ai beaucoup de pathologies, l'anesthésiste veut me faire une anesthésie totale pour m'opérer. On peut le faire en local ou en total. Et j'ai peur de cette anesthésie, de dormir. De toute façon, j'ai peur de dormir, je dors très très peu. Ce qui me rend malade au niveau du diabète, tout se déstabilise.
Parce que
j'ai peur de ces rêves et j'ai peur de l'anesthésie. De rêver à ça pendant l'anesthésie.
Ah, bon, une anesthésie, le sommeil n'est pas le même que celui qui est réparateur, ou en tout cas celui que le lambda. Donc, on se fait anesthésie, puis on se réveille et on ne se rappelle, on ne se souvient de strictement rien du tout. Alors, ce qui peut être très intéressant pour vous, Anne, c'est là, comme ça, quand je vous entends, je pense à l'hypnose. Je pense à l'hypnose pour vous, à la fois parce que cette boîte de Pandore a été ouverte et qu'il y a encore pas mal de choses qui semblent vouloir s'exprimer Donc l'hypnose peut vous aider aujourd'hui à continuer à cheminer pour vous sentir mieux. Je pense qu'effectivement, revoir un psy, ça peut être une bonne chose également pour vous. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'hypnose ou par le psy ? Là, c'est vous et comment est-ce que vous voulez cheminer ? Parce que parfois, ça peut être un peu trop également sur l'aspect émotionnel. Il ne faut pas trop non plus charger à chercher absolument, absolument, absolument. Donc, il faut aussi laisser son esprit, j'ai envie de dire, se reposer. Donc, l'hypnose peut vraiment vous aider, peut avoir un effet cathartique pour vous. Continuez à voir un psy, parce que je sais que vous avez des phases un peu de creux.
Oui, là, je suis en dépression.
Oui, en phase dépressive en ce moment.
Oui.
Donc, c'est en fait, en même temps, est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez donné du sens à votre vie ? Sur les projections des années à venir.
L'an dernier, quand j'ai téléphoné à Olivier Delacroix, j'avais des pulsions suicidaires très très violentes et je voulais vraiment finir, c'était vraiment... Et là, je remonte un petit peu.
Oui.
Même si je n'arrive pas à faire mon deuil totalement, mais j'ai progressé là-dessus.
Vous n'arrivez pas à faire...
Et je voudrais essayer de... Mais je suis un peu coincée. Non, j'y arrive pas, non.
Deuil de qui ?
À cause de lui.
Le deuil de qui, Anne ?
De mon mari.
De votre mari.
De Frédéric.
D'accord. Qui est parti il y a 3 ans.
Oui. 3 ans en décembre.
D'accord. L'hypnose, vraiment, ça peut vraiment vous aider. Le MDR également. Je pense que je sais que vous êtes une auditrice, une fidèle auditrice, donc j'ai presque envie de vous dire que j'ai rien à vous apprendre de plus que ce que vous n'avez déjà entendu par rapport à tous ces témoignages de traumatismes vécus. Donc il y a plusieurs solutions possibles. Maintenant, comment est-ce que je peux vous aider à mettre en action tout cela, à vous mettre vraiment en marche sur votre épanouissement et le fait que vous avez le droit d'être heureuse et de goûter au bonheur. Parce que vous y avez le droit, Anne.
Oui, mais c'est-à-dire d'abord, il faut que je fasse cette opération des deux yeux, là,
Très bien.
Je puisse conduire pratiquement, que je puisse conduire de nouveau pour aller... Là, je suis dans un petit village, mais je puisse conduire de nouveau pour aller... Alors, un hypnothérapeute ou un psy.
Qu'est-ce qui vous ressource, Anne ? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie ?
Mes animaux.
Vos animaux ?
Ouais.
Est-ce qu'il vous arrive de vous balader un petit peu ?
Non, j'ai des problèmes. Là. J'ai un nombre de pathologies assez, attention, assez vertigineux. Donc, j'ai une polyarthrite rhumatoïde et 2 prothèses de hanche. Donc, j'ai du mal à marcher.
Parce que j'étais en train de me dire que quand on broie du noir, c'est intéressant de se mettre au vert.
Donc oui. En plus, je suis entouré de forêts. Là. Voilà. Et avec Frédéric, avec mon mari,
ouais.
On allait souvent se promener. Bon, avec lui, j'avais une canne et puis j'arrive à marcher avec une canne.
Oui.
Et toucher les arbres, voilà. C'est aussi ça m'a fait du bien.
Oui.
Quand je me mets à l'entrée d'une forêt, je marche un peu et là, il faut que je récupère au niveau de la vue.
Mmh. Et après.
Et puis il y a mes animaux.
Oui.
Donc j'avais fait une grosse bêtise juste avant d'appeler Olivier. J'avais donné la moitié des somnifères à mon chien et j'avais pris l'autre moitié.
Ah oui.
Et voilà, et on s'en est sortis tous les deux.
D'accord.
Pas assez. Parce que mon chien aussi a des problèmes.
Ah oui, qu'est-ce qu'il a comme problème, votre chien ?
Mais depuis le décès.
Ah, il déprime.
Ouais. Là, tout à l'heure, quand le téléphone a sonné, il s'est mis à aboyer. Je ne sais pas si Adrien ou Bastien l'ont entendu. Vous voyez comment je suis. Et là, je sais pas, mais il aboie tout le temps, tu vois. Si je dors et qu'il s'inquiète, il aboie. Si je pleure, il aboie. S'il sent que j'angoisse, il aboie.
Ah oui.
Si je suis dans une autre pièce, il aboie. Là, il s'est calmé.
Vous avez un chien hypersensible, alors. C'est une éponge.
Ouais, ouais. Comme moi, ouais.
Vous êtes en connexion, tous les deux.
Ouais.
Après cette opération, si on fait un peu de projection pour rester dans quelque chose de réaliste et positif, qu'est-ce que vous voulez faire, Anne ?
Au final, je veux retourner dans le sud.
Ah oui ? Ah très bien. Et vous avez une idée de l'endroit où...
Mon rêve, ça serait le Pays Basque.
Ah.
Malgré ce qui est passé. Parce que l'océan me calme énormément. Je suis très océan, montagne, arbre.
Oui.
Ça m'est trop offert, comme je vous disais tout à l'heure.
Est-ce que vous avez des amis?
J'avais des amis et ça s'est mal passé après le décès de Frédéric. Donc, ils m'ont laissé tomber. Et là, je reviens petit à petit vers eux.
D'accord.
Pour essayer de faire un trait sur les deux ans. Là, et de... Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'explique. Donc, ils me demandent de faire un trait et de repartir. C'est pas facile. Oui. Parce qu'ils ont dit des choses atroces. Et ça faisait 40 ans qu'on se connaissait. Donc, c'est difficile, ça a été un deuil aussi.
Mais ils sont là, et vous les recontactez.
Oui, je les ai recontactés.
Ouais, c'est très positif.
Oui, j'essaye de m'en sortir.
Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. En tout cas, vous mobilisez l'énergie pour, c'est admirable. Ouais.
Mais le problème, c'est que je dors très 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 peu, parce que j'ai peur. Encore de rêver ça.
C'est
début, je rêvais que Frédéric me disait, mon mari, me disait, là, fais attention à ça, il faut que tu ailles voir un tel. Je me réveillais, j'étais heureuse comme si je lui avais parlé. Quoi. Donc j'étais heureuse de dormir. Et là, depuis 2 mois, c'est sans arrêt les trucs de mon père. J'ai peur de dormir, donc je fais tout pour pas dormir.
Et pourtant, attention.
Entre le café, cigarette.
Ouais, ouais. Mais si je vous dis que c'est important de dormir, je pense que vous le savez.
Je sais, ouais.
Et oui, surtout pour votre système immunitaire, c'est extrêmement important de dormir.
Et pour le diabète aussi.
Pour votre diabète, pour le stress, pour.
Ouais.
Et oui, parce que plus vous fragilisez votre organisme et plus vous allez faire des cauchemars également. Alors, je le dis très souvent, en fait, le sommeil, c'est vraiment la base. C'est la base parce que c'est ce qui nous permet également de savoir si on va bien ou pas. Quand on broie du noir, c'est que forcément, et très souvent, on est fatigué. Donc, c'est un indicateur, c'est un signe également très clair du cerveau pour dire « stop, j'ai besoin de dormir ». Quand on est en forme, on va vraiment avoir un prisme plutôt positif. Donc le cerveau, en fait, il ne peut pas emmagasiner le positif et le négatif. Donc quand il est en forme et quand vous êtes en forme, en fait, vous allez stocker du positif. Et quand vous êtes fatigué, vous non seulement stockez le négatif, mais en plus, vous restez dans cette ambiance, dans cet esprit, dans ces pensées, le schéma vraiment qui va être négatif. Et donc, ça amène très rapidement au spleen, au mal-être, donc à la déprime, à la dépression. Il faut faire très attention. Forcément, je vais vous dire, Anne, dormez.
Oui, je sais. Avant, je faisais de la... Sabine en avait parlé une fois de la cohérence cardiaque.
Absolument. De la cohérence.
Et ça arrivait à me calmer. Et maintenant, ça ne me fait plus rien, mais je ne le fais pas régulièrement. Il faudrait que je me remette à le faire régulièrement.
L'été dernier, Anne, je suis passée par une phase très difficile. J'étais dans la souffrance. Je n'étais pas malade, mais je souffrais terriblement. Et donc, j'essayais de trouver des parades, des solutions pour atténuer cette douleur. Vraiment, j'ai passé 2 mois à avoir extrêmement mal. C'était l'été dernier. Au-delà de la morphine, même parfois la morphine ne suffisait pas. Et en fait, j'ai découvert le CBD. Et puis, j'ai découvert autre chose qui est l'ASMR. Donc, vous avez la cohérence cardiaque qui, effectivement, permet de trouver le sommeil. Et l'ASMR, donc, je mettais mes écouteurs et j'écoutais donc ces voix qui chuchotaient comme ça. Et en fait, quand vous chuchotez, ben, en fait, ça fait du bien. Mine de rien. Ben, c'est pas mal du tout pour dormir. Ça s'appelle l'ASMR. ASMR. C'est des voix comme ça. Et ça chuchote. Vous allez vraiment ça, c'est, et je m'endormais comme ça. C'est, et il y a plusieurs thématiques, hein, donc pour trouver le sommeil, pour retirer, pour atténuer les douleurs, etc. Et ça, en tout cas sur moi, ça a marché. Et comme vous êtes une hypersensible, Anne, eh bien ça peut très bien marcher sur vous également. A S M R.
ASMR.
Oui, et ce sont des voix qui sont chuchotées, des phrases qui sont chuchotées comme ça et qui permettent vraiment de s'endormir et de trouver un peu de sérénité.
Je vais essayer. Je vous remercie.
Mais je vous en prie, Anne. Je penserai à vous le 25 août. Je vous enverrai un petit message pour savoir si tout s'est bien passé.
Je vous remercie. Merci. Ça m'a fait énormément de bien de vous parler.
Eh bien, j'étais en tout cas ravie de vous avoir... également en direct avec nous. Et je vous souhaite beaucoup de courage, Anne, pour la suite. Et puis, on reste
merci.
En contact.
Bon.
Je me permets de vous embrasser. Merci, Anne. Au revoir.
Moi aussi, je vous embrasse. Ça va. Au revoir.
Au revoir.